Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les très grosses petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches
un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres?
Non.
Mais que diable, il est dans cette galère!
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Qui avait dit le poil l'autre promenade?
Ah, cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre numéro de février de Scène de vie, vie de scène. Bonjour Nathalie.
Bonjour JC, bonjour à tous et à toutes. Oui, notre deuxième émission de la nouvelle année 2012. Avec encore des sujets éclectiques au programme et plein de spectacles à voir sur le mois.
Alors une fois de plus, nous prendrons le temps de vous parler de cette vie de scène avec des questions sur Shakespeare.
Oui, Shakespeare, et c'est Thomas Joly, le metteur en scène et directeur de la compagnie La Piccola Familia, qui à l'occasion de sa nouvelle création de Henri VI, nous parlera de ce célèbre et toujours actuel auteur de théâtre.
Nous parlerons aussi technique et notamment nous avons la présence de deux techniciens avec nous sur le plateau, les techniciens du spectacle vivant. Bonjour à vous déjà.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour.
Alors Thierry et Nicolas.
Voilà, qui exercent la technique sur la scène, on va dire la scène régionale, locale, et travaillent avec différentes compagnies ou structures de la région. Ben, on vous présentera à partir de la moitié d'émission.
Exactement, et si entre deux vous souhaitez intervenir, n'hésitez surtout pas. Nous parlerons également des compagnies de spectacles vivants locales.
Oui, dans le cadre d'un festival régional qui s'appelle Région en scène, qui permet de faire découvrir aux professionnels et au public l'ensemble des compagnies sur la région.
Nous ferons un tour également sur l'agenda du mois de février.
Et février, même si les vacances sont à la fin du mois, bien avant cela, vous avez une multitude de spectacles, de concerts, d'ateliers à pratiquer avant peut-être de voir la neige ou d'aller sur les pistes de ski.
Nous conclurons l'émission avec encore un petit tour dans le monde de la musique et dans la musique étonnante.
Alors là, je crois que c'est une musique de, on va dire, de saison. Tu nous emmèneras vers les hauts froids et basses températures.
Nous irons faire un petit tour du côté des Inuits. Et tout de suite, sans plus attendre, nous vous proposons de retrouver notre traditionnelle prise de son.
C'est ce qu'on appelle un incident déclencheur dans l'acte 1 d'un scénario où quelque chose bascule et ce qui bascule, cet incident, va définir toute l'action à venir. Alors, le problème, évidemment, c'est de savoir qui est cet homme, qui est ce bon docteur Bill, comme l'appelle sa femme. Et ce qui est intéressant, c'est que dès la première séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence où on découvre en fait l'appartement où vivent Bill et Alice, eh bien, de façon très subtile, Kubrick va insister sur la myopie de son héros. C'est-à-dire, là, par la myopie, j'entends non pas que Bill a une mauvaise vue, ou qu'il a un quelconque handicap physique, mais qu'il a une trop grande confiance en sa vision. En fait, dans cette première séquence, Kubrick va détailler avec beaucoup de sophistication la déambulation a priori très ordinaire de deux époux dans leur appartement. C'est-à-dire que Bill va chercher machinalement son portefeuille dans la chambre conjugale et que bien sûr, Bill n'est pas inquiet parce qu'il sait que dans le pire des cas, sa femme sait où il se trouve. Il lui dit d'ailleurs, il lui pose d'ailleurs la question et elle lui répond instinctivement parce qu'elle sait d'instinct où se trouve le portefeuille. On a là un travelling arrière qui est effectué par la Steadicam. Alors je ne sais pas si vous savez la Steadicam ce que c'est qu'une caméra en fait avec un système de stabilisation qui permet des mouvements très très fluides. On a ce travelling arrière qui est assorti de panoramiques qui vont peu à peu rendre cet espace labyrinthique justement.
Labyrinthique justement.
Alors
Nathalie, que venons-nous d'écouter ?
Non, ce n'était pas une conférence dans un amphithéâtre, mais une intervention de Sam Azulis, qui est un des spécialistes de Stanley Kubrick. Et c'était la rencontre à l'issue du dernier film programmé dans le Festival Ciné-Scène, qui s'est terminé donc mardi dernier, et où notamment projeté Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et donc Sam Azulis rencontrait le public et juste et nous faisait à chaud une analyse du film et de la présentation de ce dernier film de Stanley Kubrick. Donc c'était extrêmement intéressant de sortant du film où on avait les images à chaud, vraiment tout en tête, et d'avoir offert cette analyse où on était là plan par plan à découvrir et à comprendre la logique de Stanley Kubrick. Et je peux dire que le public était assez scotché du coup à ces paroles.
Ça donne presque envie du coup de le revoir une deuxième fois juste derrière, non ?
Eh ben oui, je dois dire que de revoir Eyes Wide Shut sur grand écran avec une pellicule là qui était absolument parfaite, en version originale sous-titrée, oui, ça, c'était plutôt une soirée bien agréable et qui bouclait bien la boucle sur le festival Ciné-Scène, rêve de cinéma, cinéma de rêve.
Eh bien, je propose que nous passions à notre première pause musicale qui va nous raccrocher très rapidement au thème qui nous occupe juste derrière, à savoir Shakespeare. Nous proposons Roméo et Juliette, Danse... Oh là là, ça je sais pas si je vais vous le faire, si...
Danse of the Night. Prokofiev.
Thank you.
Alors nous écoutons, nous écoutions Roméo et Juliette de Prokofiev et c'était la Danse of the Night, Dance of the Nights.
Nous recevons maintenant notre invité téléphonique, Thomas Joly de la Piccola Familia. Bonjour à vous.
Bonjour
Thomas.
Bonjour.
Bienvenue sur notre émission Scène de vie, vie de scène. Et voilà, on vous a choisi pour vous poser quelques questions autour de Shakespeare et bien sûr du Henri VI que vous avez monté et que vous allez présenter très prochainement à partir du 14 février au Théâtre du Grand Forum à Louviers.
Tout à fait.
Voilà. Donc, Shakespeare...
Merci de cette invitation.
Écoutez, bienvenue, on fait partager à nos auditeurs l'actualité en région de la scène théâtrale et on estimait que le Henri VI c'était un événement majeur là sur le mois.
Eh ben, c'est un double événement, c'est que c'est une pièce injustement méconnue qui est très rarement montée parce qu'elle est très longue.
Oui, je crois que c'est plus de 12 heures de théâtre.
Alors, en 2014, quand j'aurais monté, il faut savoir qu'Henri VI, de William Shakespeare, qui est une pièce de jeunesse, en fait, ça regroupe trois pièces de Shakespeare, donc 15 actes, plus de 10 000 vers, 150 personnages, voilà, c'est une œuvre monumentale. Avec la Piccola Familia, on travaille dessus depuis 2 ans, la Piccola Familia est une compagnie installée à Rouen, donc depuis 2 ans, on travaille sur cette œuvre monumentale, et en 2014, nous aurons, je le souhaite, créé l'intégralité des trois pièces que constitue Henri VI.
Donc là,
nous sommes à la moitié.
Vous êtes à la moitié de la création.
C'est ça. Donc nous avons créé déjà environ 6h30 de plateau que nous allons présenter à Louviers très prochainement.
Bien. 150 personnages, ça veut dire 150 artistes sur plateau ?
Hélas, non. On peut pas hélas finalement, mais non, c'est un très beau plateau qui sur lequel évoluent 18 acteurs, plus 6 ou 7 techniciens en coulisses pour toutes les manipulations de décors et de lumière et de son. Donc on a une équipe d'environ 25-26 personnes qui travaillent sur ce projet avec moi. C'est une très belle équipe, très bienveillante. Et puis c'est pour la mise en scène et pour les acteurs de toute façon, ce type de pièce est un défi parce qu'elle développe, enfin que Shakespeare sait manier et sait très bien le faire d'ailleurs, les registres très différents que le théâtre peut proposer, de la comédie à la tragédie, du burlesque au politique, au poétique, au sentiment, à la passion, etc. Donc on a comme ça une grande palette dont il faut se saisir et pour la mise en scène et pour les acteurs et tous ces acteurs endossent chacun environ 6 ou 7 personnages pour pouvoir raconter l'histoire, cette épopée, ce règne terrifiant, stupéfiant même de cet enfant qui est devenu roi trop tôt et qui a pourtant eu un règne très sanglant.
Oui, donc c'est ce choix de Henri VI, de cette œuvre monumentale, vous l'avez faite pour vos comédiens, pour vous-même, pour les immerger dans ces jeux et ces émotions différentes, pour le public, ou c'était aussi un challenge?
Parce que c'est un défi de tout ordre en fait. La pièce n'a jamais été montée dans son intégralité au XXe siècle en France, et ça c'est une... Jean-Louis Barrault en avait fait une version dans les années 50, Stuart Side, on en a fait une autre dans les années 90. Et puis voilà, c'est tout ce que cette pièce a pu avoir comme tentative pour être montrée au public. Donc évidemment, ça constitue une forme de défi. Après, les raisons sont nombreuses pour s'attaquer à ce type de d'œuvre. Il y a d'abord une raison, oui, de fond, de forme, ce que je disais, sur toutes les théâtralités que Shakespeare développe, qui vont vraiment d'un registre à l'autre, et quand on s'ennuie, en tout cas, chacun peut retrouver dans cette pièce une chose qui lui plaît, et puis voilà, enfin, des registres qui peut... C'était un théâtre très, très populaire, et que Shakespeare écrit pour le peuple, donc c'est un théâtre qui, voilà, est parfois, des fois, un peu potache, mais aussi très sérieux. Donc il y a toutes les questions de forme, et pour la mise en scène, et pour les acteurs, et puis une question de fond aussi, puisque ça s'appelle Henri VI, mais c'est moins sur le personnage que sur son règne, qui a été sanglant, comme je le disais, puisqu'il est traversé par deux grands conflits, qui sont la guerre de Cent Ans, enfin, en tout car la fin, si on peut appeler ça une fin, la guerre de Cent Ans, et puis la guerre dite des Deux Roses, une guerre civile en Angleterre qui a divisé l'Angleterre de manière vraiment sanglante. Et donc voilà, c'est un roi qui est roi à l'âge de 9 mois, quand son père meurt, qui a donc été complètement sacrifié à l'État, entre guillemets, et puis qui n'a jamais réussi à imposer la paix. Or, lui prône sans cesse des valeurs comme la paix, l'amour, la bienveillance. Et c'est aussi une réflexion sur à la fois, pas seulement sur le pouvoir, mais sur ce qu'il faut comme qualité pour gouverner. Et c'est une vision aussi un peu pessimiste, puisque Shakespeare nous met sur le trône un homme qui est pieux, un homme qui est bon, un homme qui a de très belles valeurs humanistes, et il nous démontre que avec ces valeurs-là, eh ben, on ne peut pas gouverner. Voilà. Et que peut-être, alors, il faut forcément une forme de, pas de tyrannie, mais en tout cas de violence, de force, pour pouvoir être assis sur un trône et le garder et maintenir l'État en ordre de marche. Voilà. Donc c'est assez intéressant aussi, vu notre,
oui, puis ça parle,
notre actualité.
C'est, voilà, c'est en résonance et en écho aussi avec notre siècle et notre actualité proche.
Après, c'est ça la grande qualité de Shakespeare, c'est que il nous écrit ça il y a plus de 4 siècles et pour autant, voilà, ça continue de nous parler aujourd'hui.
Et donc, justement,
pour toutes ces raisons.
Et justement, parce que c'est quand même un texte d'il y a 4 siècles, et en quoi justement cette langue pour vous de Shakespeare, elle continue à perdurer, à trouver son sens encore aujourd'hui au 21e siècle. C'est incroyable comment cet auteur traverse.
Il y a des mystères, hein, moi je trouve que il y a beaucoup de légendes, hein, autour de Shakespeare, de choses qui se racontent. Il n'aurait pas été seul, en fait c'était un groupe d'auteurs, en fait c'était le fils d'Elisabeth Ier, enfin bon, tout un tas de choses. Je ne sais pas ce qui est vrai là-dedans. En tout cas, ce dont on est à peu près sûr, c'est que ces pièces, il les a écrites à un moment donné de sa vie, puis il les a retravaillées tout au long de sa vie. Donc c'est des pièces sur lesquelles il a pu passer beaucoup de temps. Ensuite, je rajouterais, hormis le grand mystère du génie de Shakespeare, qui n'est pas un mystère d'ailleurs, mais est-ce que Shakespeare, en fait on a du mal à croire que c'est tellement beau, c'est trop, peut-être trop beau pour être vrai, mais c'est peut-être vrai en fait, tout simplement. En tout cas, en France, on a encore un autre stade qui est le stade de la traduction.
Oui.
Et là, c'est ça qui a fini de me convaincre sur cette pièce. C'est que Lynn Cottenis, qui signe la traduction, qui est dans l'équipe de Jean-Michel Desprats, qui renouvelle toutes les traductions de Shakespeare pour la Pléiade en ce moment, a proposé une traduction qui remet à jour toute la force de jeu aussi du langage de Shakespeare, parce que c'est de la poésie, mais c'est aussi une vraie matière de plateau. Et je le disais, Shakespeare était un homme, c'était pas un homme de la cour, c'était quelqu'un du peuple qui écrivait pour le peuple avec des acteurs qui étaient en tournée avec lui, etc. Donc c'était vraiment une forme de théâtralité très populaire pour le coup, et du coup qui avec cette nouvelle traduction se retrouve. C'est ce que je voudrais dire aussi aux spectateurs qui seraient réticents par rapport à la notion de la durée de l'œuvre, puisque là nous avons, comme je l'ai dit, fait un spectacle qui dure 8 heures, qui est découpé en deux soirées, une de 4 heures et une autre de 4 heures. Ce que je voulais dire, c'est que Shakespeare n'est pas une chose intouchable, belle, à mystifier. Moi, j'ai pris Shakespeare, je l'ai remis dans son bain, quoi, c'est-à-dire dans une parole qui parle à tous, et qui est universel, qui traverse les âges, et je crois que c'est mon métier, mon devoir même, de savoir rendre cet auteur aujourd'hui. Shakespeare, bon, c'est un auteur évidemment qui a fait ses preuves, ça.
Oui, voilà. Sinon, il n'aurait pas duré 4 siècles.
Et que du coup, avec tous ces registres, je parle des registres, ça c'est de la forme, mais on pourrait aussi parler de la structure de la pièce, puisque on se rend compte que cette saga, puisque c'en est une, est écrite comme une série télévisée quasiment, hein, comme les scénarios aujourd'hui que toutes les séries américaines peuvent nous proposer, dont moi par exemple je suis très friand, et la structure narrative est tout à fait stupéfiante, puisque à chaque acte, à chaque fin d'acte,
c'est un nouvel épisode qui se passe.
On a envie de savoir la suite, une espèce de climax comme ça.
Shakespeare avait déjà tout compris finalement, de comment tenir les gens en haleine et revenir et emporter.
De toute façon, c'était une question de pour manger aussi. Ces pièces devaient être des succès. Donc, il a certainement trouvé, bien avant nous, hein, ce qui voilà tient le spectateur en haleine, ce qui est voilà ce qui permet de l'attention du spectateur sur une durée aussi longue. Et puis pour l'avoir déjà joué depuis la semaine dernière et à Cherbourg et là tout de suite à Mulhouse d'où mon absence de vos studios, mais c'est que le public ne voit pas le temps passer, et ça, et le public me le dit, enfin, je veux dire, c'est mon travail aussi de faire un spectacle qui soit dynamique et enlevé, mais c'est aussi un autre rapport au temps qui est proposé là. On est bien souvent devant des objets scéniques qui sont, quoi que le théâtre en dise, formaté à peu près une heure et demie avec des acteurs allant devant entre 5 et 10, voilà, qui sont les formats qui aujourd'hui sont les plus pratiques à diffuser, à faire tourner, etc.
Mais heureusement donc, que dans le théâtre, nous avons du temps et prenons le temps de...
Il faut, savoir le reprendre, mais ça ne va pas de soi, ça je peux complètement l'entendre, et que tout à coup, avec cette pièce-là, on peut s'asseoir dans un fauteuil et puis se laisser glisser petit à petit et mener dans l'histoire avec un petit H et avec un grand H, hein, parce qu'il y a aussi tout cet aspect historique, hein, Jeanne d'Arc arrive, Charles le dauphin de France, ces personnages-là qui ont marqué l'histoire, sont dans la pièce.
Nous avons hâte de découvrir et de nous installer dans les sièges du Théâtre du Grand Forum pour profiter de cette œuvre monumentale et si rare, finalement.
Voilà, c'est ça. Une occasion. Oui. Merci beaucoup. Ah,
merci à vous. Merci beaucoup, Thomas Joly. On retrouve et on conseille aux spectateurs et aux auditeurs de venir mardi 14 février au Théâtre du Grand Forum et le jeudi 16 pour le deuxième épisode. Merci Thomas.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
Et nous poursuivons en musique avec une sélection de ton choix, Nathalie.
Oui, j'ai choisi My Brightest Diamond, la première piste de cet album, de cette belle chanteuse qui s'intitule From the Top of the World.
At the end of the sea, there waits my wind to carry me. Through storms we will sail, just to gaze at the top of the world. From the bottom of the world, we looked up and saw you, and gazing
My Diamond Brightness, at the top of the world.
Eh bien, je suis ravi que ce soit pas à moi de donner le titre. Nous poursuivons et bien maintenant nous allons échanger avec nos invités, à savoir Thierry et Nicolas, qui sont techniciens du spectacle vivant. Alors, j'ai presque envie de vous redire bonjour, mais on a déjà entendu un petit peu votre voix en début d'émission.
Maintenant, on va l'entendre dans le micro.
Alors, bonjour. Voilà.
Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, dire un petit peu quel est votre métier parce que la technique dans le spectacle vivant, c'est très très large. Quel est votre métier et quelles sont vos particularités?
Oui, alors moi, je travaille dans une structure qui se trouve être, en l'occurrence, le Théâtre d'Évreux. Donc, je suis je travaille dans cette structure de façon permanente pour le service technique, avec effectivement une activité qui est constituée quand même de beaucoup d'accueil de spectacles qui sont déjà produits et que nous programmons dans une saison. Donc c'est un travail à l'année de programmation qui va du théâtre, la musique, la danse et des formes aussi plus particulières. Voilà.
Alors, l'accueil, quel est le travail de technicien dans l'accueil? Alors, l'accueil, je suppose que ça se résume pas à ouvrir la porte et dire installez-vous là.
Oui, effectivement, c'est un terme qu'on utilise pour, simplement pour, voilà, c'est vrai que dans le travail, dans la vie d'un spectacle, il y a une naissance qui est celle de la création, donc avec une équipe artistique qui va vraiment inventer le spectacle, et ce spectacle va être donné pour une première représentation, et ensuite il aura une vie de diffusion, une vie
de tournée.
Et donc quand nous on a notre directeur fait une programmation de spectacle, il a pu déjà voir ces spectacles, donc ils sont créés, ils ont ils ont déjà, donc on connaît les caractéristiques, on connaît les éléments.
Et alors, comment vous les connaissez, ces éléments? C'est-à-dire que vous rencontrez d'abord les équipes artistiques pour sauver des dossiers
Donc ouais, effectivement, le spectacle va avoir une sorte de carte d'identité avec une fiche technique. Et quand on accepte, quand on choisit un spectacle, on le choisit avec ses caractéristiques techniques, avec ses contraintes. Et c'est voilà. Et donc ça passe effectivement par un contrat qui nous lie à accepter et à répondre à toutes ces demandes. C'est-à-dire que il faut qu'on soit capable de restituer toutes les images qu'auront été créées, la scénographie qu'auront été créées. La compagnie ou s'engage à adapter aussi le spectacle à la salle dans laquelle on va le programmer.
Alors, l'aspect technique, c'est la lumière, le son. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la technique?
Le plateau aussi.
Le plateau. Alors voilà. Thierry, justement, on va passer à Thierry.
Moi, je travaille comme régisseur de scène ou plateau, machiniste, comme intermittent par contre. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un employeur en particulier. Ça peut être à droite, à gauche, selon les besoins. Parce que justement, selon les spectacles, les besoins ne sont pas les mêmes en termes de techniciens. C'est aussi des techniciens qui sont, eux, permanents, selon les structures. Et on fait appel aussi aux techniciens intermittents pour renforcer les équipes selon les compétences. Alors, il y a les techniciens du plateau, de la lumière, du son, de la vidéo de plus en plus aussi.
Mm-hmm. Alors, du plateau, ça veut dire déjà plein de choses. Parce que le plateau quand on a souvent un concert ou quand on a du théâtre, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, par exemple, si tu bosses régisseur de scène à l'abordage, tu vas installer tout ce qui est les micros, faire le patch son, le backline.
Backline, c'est évacuer les éléments.
Tout ce qui est instruments, tout ça. Alors que si tu bosses en théâtre, spectacle vivant, le plateau, ça va être plutôt le montage du décor. Tout ce qui est...
changement de décor entre les
actes. Les changements de décor, ça se fait de plus en plus rare, mais là, le prochain, il va y en avoir énormément,
oui,
a priori.
Sur le Henri VI,
sur
notamment.
Sur le Henri VI, voilà. Et du coup, après, tu peux être amené aussi à monter de la structure. Ça dépend...
Pour l'événementiel et les festivals.
Pour l'événementiel, le festival. C'est au Cirque Théâtre, notamment, ils travaillent énormément avec de la structure aussi.
Donc ça veut dire que c'est de la mise en place d'un décor, d'un élément particulier.
En fait, ça c'est les spécificités de chaque lieu, selon les besoins techniques. Et voilà, parce en technicien d'accueil, nous les compétences qu'on a, c'est qu'on connaît la salle dans laquelle on travaille souvent. Donc.
Effectivement, et la compagnie qui va passer dans une salle va venir aussi avec son équipe technique, mais qui n'aura, elle, pas la connaissance de la salle. Voilà. L'équipe technique de la tournée va vraiment le
savoir. Oui, ils connaissent le spectacle, voilà, comment ils ont créé, ils savent où les besoins.
Implanter. Après, le comment ça va se faire, c'est selon les lieux avec nous.
Alors là, j'entends donc technicien d'accueil, technicien plateau, technicien lumière, technicien son, technicien de la compagnie. Ça fait combien de techniciens? Alors bien entendu, ça dépend des spectacles, mais une équipe de techniciens, ça comprend combien de personnes? Je sais pas, sur un concert, sur un théâtre, sur d'autres événements.
Eh ben, ça peut aller de 1 à 15. Voilà. C'est vrai que justement avec Thierry, on travaillait hier sur une forme très contemporaine, de musique contemporaine, qui n'était pas forcément sonorisée. Donc c'était assez simple. Une personne peut accueillir un spectacle. Et puis je pense que sur le spectacle d'Henri VI, on sera peut-être pas loin d'une petite vingtaine, quoi. Si on additionne, enfin si on prend en compte les techniciens d'accueil et les techniciens de la tournée, ça peut représenter pas mal de monde. On est sur des échelles de temps qui sont très courtes, puisque les tournées s'enchaînent, les compagnies n'ont pas une semaine devant elles pour jouer deux soirs, et donc on est sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de, voilà, il faut de 48 heures, c'est-à-dire que là, pour être prêt à 20h30 un mardi, il faut commencer le lundi à 9h et travailler pas non-stop, hein, on s'arrête la nuit, mais quand même des grosses journées, et on va finalement augmenter le nombre de personnes, de techniciens, en fonction de l'importance du décor et des choses à faire, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas la contrainte primaire, c'est simplement qu'à 20h30, quand le spectacle doit démarrer, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ce soit fait.
Oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les spectateurs rentreront.
C'est ça, voilà.
Quelles sont les difficultés particulières à travailler, voilà, peut-être même à plusieurs équipes, travailler sur la technique, enfin, je sais pas, j'imagine que peut-être que tant qu'il n'y en a pas un qui a fini son boulot, les autres peuvent pas rentrer j'imagine qu'il y a un tas de choses qui sont liées. Quelles sont les difficultés principales, du coup?
Effectivement, on va essayer de cadencer un peu les actions, effectivement, parce qu'on travaille dans un théâtre, dans une cage de scène, c'est un espace en trois dimensions, avec les éléments qui vont se trouver au-dessus, en hauteur. Donc effectivement, on va phaser le travail pour que les gens ne se gênent pas les uns avec les autres, et aussi prendre en compte les aspects de sécurité. On va souvent commencer par effectivement installer tout ce qui va se trouver en hauteur, et notamment tout ce qui est éclairage. Et dans un deuxième temps, on va amener le décor dessous. Et dans un troisième temps, on va régler les éclairages sur ce décor. Dans un quatrième temps, on va paramétrer toutes les machines, les consoles lumière, les consoles son. Dans un cinquième temps, on va faire venir les artistes pour qu'ils puissent vraiment vérifier si tout est en place. Et puis dans un cinquième temps, on accueille le public.
Voilà. Et dans un sixième, un septième, c'est le démontage.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc ça veut dire que sur un gros événement, on peut être à J-2 avant pour monter, ou même plus.
Voilà, ouais. L'échelle de temps, c'est ça.
C'est-à-dire que sur un spectacle de 2 ou 3 heures pour le public, il peut y avoir 3 ou 4 journées de travail.
Voilà.
Complet sur une 10, 15, 20 de personnes.
C'est ça. Voilà, c'est ça, sur quand même des formats qui sont assez importants.
Important, là. Ouais.
Est-ce qu'au bout d'un moment, les techniciens plus globalement, vont influer sur le résultat définitif? Les techniciens en général sont pas le cinquième acteur, le troisième acteur, ou le cinquième membre d'un groupe, ou le, enfin, est-ce que vraiment les techniciens, même si on les voit pas durant le spectacle, finalement influent énormément sur ce qui va se passer?
Forcément. Si nous on décide de pas monter, les comédiens ils peuvent jouer sur un plateau nu dans ce cas-là, mais
sur aussi des, les effets de lumière, même s'il y a un plan de scène, même s'il y a un plan établi.
C'est partie intégrante du spectacle, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, même, on a Bon, il y a vraiment, selon la lumière, le son, ils sont très spécifiques en technique. Au plateau, ça commence aussi avec l'arrivée de moteurs guidés par informatique, tout ça. Mais la technicité prend pas forcément... Elle est là au service de l'artistique. C'est-à-dire, nous, on met nos compétences techniques pour que le spectacle puisse jouer. Voilà.
Il y a une partie, alors quand on est dans les phases de création de spectacle, dans les phases de conception, là effectivement la technique peut apporter des idées, apporter ou simplement réaliser des envies de mise en scène ou pas, enfin répondre à des envies et trouver justement une traduction concrète de ces choses-là. Donc cette, évidemment ça c'est la technique du coup peut effectivement rendre la chose faisable et voilà.
Oui.
Après dans la vie du spectacle, dans la diffusion, c'est vrai que l'écoute de la technique vis-à-vis de l'artistique est très importante et contribue évidemment à ce que ça se passe au mieux.
Je dirais un spectacle sans la technique n'existe pas au premier pas de la création. Comme à sa diffusion. Après, j'ai vu, hein, il m'est arrivé de voir des spectacles où le technicien était aussi totalement intégré au spectacle, à la mise en scène. Il était visible sur plateau. Parce qu'on vous voit souvent en noir, les hommes du noir qui se fondent et se confondent avec la boîte noire. Donc finalement, vous pouvez avoir aussi deux rôles. Il vous arrive d'être aussi sur le plateau, il vous arrive d'être en action à côté. Je vois des spectacles, par exemple, de Valère Novarina, où le technicien, ça fait partie du théâtre, quoi. C'est un acteur, ouais, en tant que tel.
Ça, c'est un parti pris.
C'est un parti pris totalement de metteur en scène. Mais c'est pour dire que l'élément technique dans un théâtre, ça fait partie aussi du théâtre.
Voilà.
C'est hyper important. C'est pas que des hommes cachés.
Ça peut arriver.
Nous parlions tout à l'heure des différents statuts, des différents postes. J'avais envie de revenir un court instant, malheureusement, mais un court instant quand même, notamment sur le statut d'intermittent. On en a eu parlé il y a maintenant 2 ou 3 ans, où ça avait fait beaucoup d'actualité. On en parlait régulièrement. On entend beaucoup moins parler de ce statut d'intermittent actuellement. Et j'avais envie de vous demander, alors peut-être Thierry plus particulièrement, mais Nicolas a l'air est au point également sur ce statut, je pense. Où en est le statut d'intermittent? Quelles sont les particularités de ce statut et où on en est?
Alors, c'est très compliqué. Très compliqué.
C'est un statut déjà particulier.
C'est un régime d'indemnisation par chômage. Voilà. Et ça fait longtemps que c'est assez précaire parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer comme ça. C'est un système, je crois, qui avait été mis au point pour le cinéma, puisque grosse période de travail sur un tournage, puis après il n'y a plus de boulot, donc voilà, ça a été mis au point pour ça. Et là, non.
Le statut a été mis en danger il y a quelques années.
Mais c'est toujours d'actualité, on ne sait pas ce qui se passe, c'est assez flou. Même quand on cherche d'essayer de se renseigner dessus, c'est toujours... entre collègues, on discute, on fait « Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ah oui, moi j'ai entendu l'inverse ». C'est vraiment...
Il y a un flou autour de ce statut pour les principaux intéressés, alors.
Voilà.
Avec toujours, dans l'ambiance, ça va peut-être s'arrêter. Alors, est-ce qu'on est...
Ça, c'est le truc qui reste. Ça peut s'arrêter à tout moment. Et après, c'est pareil. Du coup, dans intermittent, il y a les artistes qui sont intermittents. Il y a les techniciens, mais dans les techniciens, il y en a qui font de l'accueil, il y en a qui font de la tournée. Ça devient...
C'est une catégorie peut-être qui est dans laquelle il y a beaucoup de gens du spectacle qui sont dedans, mais finalement peut-être pas avec les mêmes besoins ou les mêmes conditions de travail.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Parce que le statut d'intermittent, à un moment, il était là, voilà, comme vous le disiez, pour finalement toucher des indemnisations sur les périodes de création aussi, sur les périodes de réflexion, qui sont également un temps de travail, mais qui est difficilement mesurable et surtout que personne ne paie directement.
Oui, qui n'est pas matérialisé par le paiement de contrat, diffusion d'un spectacle, etc. Ça valorisait, c'est tout le travail de préparation, de travail autour d'un spectacle, c'est sûr. Hein. Ça compensait, justement, ce système compense cette nécessité du temps de travail, d'élaboration d'un projet, d'un spectacle.
Et puis, je crois que ça répond aussi à à une nécessité dans ce monde du travail, on est sur des formats là qui enfin je parle juste pour la technique hein, de pouvoir avoir effectivement de pouvoir augmenter des équipes sur un festival, et c'est évident que les gens qui travaillent sur un festival sont pas occupés toute l'année avec ce travail là c'est des périodes intenses, et on a c'est absolument nécessaire que les gens soient, quand sont embauchés pour une période même si elle est courte, soit tout de suite opérationnelle et tout de suite formée. C'est impensable de faire venir dans des gens qui ne connaisseraient pas la chose. Et effectivement, ce n'est pas des postes qui sont garantis sur du temps plein. Et il faut pouvoir avoir cette souplesse-là, je dirais, de plusieurs employeurs, mais tout en ayant un vrai métier, quoi. C'est toute la difficulté de...
Ah oui, c'est la question que vous posez, c'est attention, on risque aussi de fragiliser des professions en tant que telles,
oui, c'est ça,
des métiers vraiment spécifiques avec cette fragilité de ce système.
Parce que la fin de ce régime spécifique, effectivement, ce serait effectivement la fin d'une profession freelance. Quoi.
Ouais, fragile.
Comme à l'accoutumée, nous demandons à nos invités de venir avec un titre de leur choix. Nicolas, vous êtes venu avec un titre.
Je suis venu
quel est ce titre? Parlez-nous-en un petit peu.
J'ai été pris un peu de cours ce matin, donc j'espère ne pas vous plomber l'ambiance, mais c'est un titre d'une chanson de Dick Engard, mais interprétée par Bachung, qui s'appelle Bruxelles, et juste un clin d'œil, Thierry qui devait partir à Bruxelles cet après-midi, donc on avait ça en commun.
Bruxelles m'attendra un peu encore.
Bruxelles en musique.
Soupçonne d'être avec toi, elle, Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt. Aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnue? Les néons, les léons, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouquet. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel. Celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles aboutit, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends ma dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Choix de Nicolas.
Exactement, c'était le choix de Nicolas. Vous nous désannoncez ce titre ?
Eh bien, merci de nous avoir invités. Et puis, bonne fin d'émission.
D'accord.
Et donc, c'était Bruxelles, interprété par Alain Bachung. C'est un titre à l'origine de Dick Engard.
Eh bien, merci à vous. Vous pouvez rester avec nous et intervenir d'ailleurs pour cette fin d'émission quand vous le souhaitez, bien entendu. Nous avons dit que nous ferions un tour du côté des compagnies locales, Nathalie.
Locales et même régionales. Donc, la région Haute-Normandie, pour la petite histoire, enfin, il faut le savoir, c'est quand même une des régions en France qui est dotée de nombreuses compagnies installées donc en région. Ça veut dire avec un bureau administratif, dans une ville, dans une commune, de la région, ou avec un lieu pour celles qui peuvent avoir un lieu de répétition plateau. Et donc, on en a aussi bien en théâtre, en musique, en danse, je pourrais aussi le noter, Sylvain Groux, Emmanuel Vaudine, mais encore, c'est un registre multiple. Et pourquoi cette petite poche ouverte sur ces compagnies régionales, c'est que justement là, la semaine prochaine, au Moulin à Louviers, est organisé un festival, des rencontres, on va dire, ça s'appelle Région en scène, sur l'ensemble de la région normande. C'est la possibilité que les compagnies normandes, ça peut venir de la Manche, de Cherbourg, de la Basse-Normandie, présentent leur travail, rencontrent des professionnels, alors quand on dit les professionnels, ce sont des programmateurs, hein, des directeurs de salles, pour montrer leur travail, mais aussi des représentations en public pour se faire connaître et faire aussi connaître la réalité et l'actualité de la création dans la région normande. Donc là, hein, qui intègre la hausse et la basse Normandie. Donc c'est un temps d'échange, c'est un réseau hein, qui existe depuis plusieurs années et donc qui est programmé à Louviers à partir de lundi, le 6 et le 7 février. C'est une programmation dans diverses salles de la région. Hein. Vous avez donc pour nous à hein, Val-de-Reuil, au Théâtre des Chalands, à Louviers également pour le département, puis après à Canteleu. Donc un choix de spectacles, parce qu'évidemment on ne peut pas programmer toutes les compagnies existantes sur la région en trois lieux, mais là c'était une sélection plus théâtrale et musicale proposée aux professionnels et au public. Alors voilà, on trouvait que c'était important de souligner cette richesse du territoire pour la création, mais également l'organisation en réseau, justement, et en réseau professionnel pour pouvoir le faire savoir, le faire voir, le faire connaître, le faire vivre. Et je soulignerai également le fait, justement, dans cette même logique, le fait que dans le département, donc de l'Eure, il y a un réseau informel qui s'est créé depuis un an et demi, qui s'intitule Réseau 27, et là qui est un regroupement des directeurs de salles du département de l'Eure, justement qui se rencontrent pour pouvoir découvrir, partager leurs connaissances, leurs rencontres avec des compagnies en région ou ailleurs, et pouvoir soutenir un moment particulier, telle ou telle compagnie. Ça permet évidemment aux artistes d'être diffusés, d'avoir un registre de tournée un peu plus large, d'avoir une mutualisation des moyens et des services proposés pour un spectacle, une création, et puis de mieux le faire connaître aussi sur un territoire et auprès de différents publics.
Alors, ce festival est ouvert, bien entendu, au public non professionnel. Hein.
Aussi, oui, bien sûr. Il y a des rencontres professionnelles et des temps publics où là vous êtes spectateur, vous allez rencontrer et voir un spectacle.
Et sur les spectacles, le prix de 3 euros par spectacle est proposé, ce qui est plutôt intéressant.
Oui.
Donc vous permettre de découvrir également les productions régionales, de pouvoir prendre des risques aussi dans les choix de ce que vous allez voir. Hein. N'hésitez pas à vous faire surprendre par ce qui est produit. Et à 3 euros, peut-être que le risque est plus facile à prendre.
Disons que oui, on se pose peut-être moins la question en disant allez, je vais voir. C'est vrai qu'on a une proposition à ce festival, c'est ce temps de rencontre, c'est à peu près une douzaine de compagnies qui sont accueillies sur ces deux jours et dans ces trois lieux différents. Donc après, c'est vrai que pour le public, ça lui permet une circulation. Hein, il va se balader entre Val-de-Reuil, Louviers, Canteleu. Et pour les compagnies, ça permet aussi de jouer, on va dire aussi, la rencontre avec des territoires différents. Il y a des compagnies qui viennent de Cherbourg, il y a des compagnies qui viennent de la Basse-Normandie, et de pouvoir aussi, dans une même région, se faire connaître finalement d'un département à un autre. Ce qui n'est pas forcément et toujours le cas. Donc ça ouvre en fin de compte, ça ouvre des portes.
Et ben, n'hésitez pas à vous y promener sur ce festival le 6 et 7 février. Nous repartons avec une dernière pause musicale. Le titre choisi, Leftland Cruiser, extrait de l'album, c'est écrit en tout petit, All You Can Eat, et le titre choisi, Krakalaka. Leftland Cruiser, qui est programmé à l'Abordage Club le 23 février. Alors vous ne le trouverez pas dans le programme papier car il y a eu un changement de programmation. Initialement c'était Buffalo Killers qui était prévu et là ce sera Leftland Cruiser. Vous avez bien compris qu'on vous recommande chaleureusement ce concert à l'Abordage Club. Ce qui nous faisait une transition toute faite sur l'agenda du mois de février, Nathalie.
Oui, alors encore une fois, un agenda riche. Donc sur février, dès la semaine prochaine, nous avons sur Louviers, Théâtre du Grand Forum, la grande et fabuleuse Histoire du commerce. Une mise en scène de Joël Pommerat, qui est l'un des auteurs actuels de théâtre le plus... Oh pardon, j'ai fait une erreur dans mon agenda. Ça parce que j'ai Henri VI dans la tête depuis tout à l'heure. Donc non, c'est au Cadran. Merci Nicolas de rectifier. Au Cadran à Évreux, les 9 et 10 février. Voilà, donc grand spectacle. Un auteur majeur dans le théâtre d'aujourd'hui avec un... Il a conçu vraiment son mode de théâtre, sa boîte noire. C'est un univers qui nous parle d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment sur ce que sont ces commerciaux qui sont en tant que tels des vrais comédiens pour pouvoir vendre leurs bricoles. Voilà, je vous le conseille. À Évreux, au Cadran. Nous avons bien sûr Henri VI, hein, dont Thomas Joly nous a parlé, le 14 et le 16 février, donc à 19h. Cette fois-ci, c'est bien à Louviers, au Théâtre du Grand Forum. Entre deux, si vous êtes un fan et que vous avez écouté les cours de Gilles Deleuze quand il est donné, je crois que c'était à la Sorbonne à l'époque, c'est Robert Cantarella, metteur en scène, qui à la médiathèque d'Évreux lundi 13 février fera le Gilles, c'est-à-dire qu'il refait les lectures, il redit les cours de Gilles Deleuze, mais avec un dispositif son. C'est-à-dire il a dans l'oreille, il a un casque sur les oreilles et il écoute, il entend le texte de Gilles Deleuze et après il redit au public. Voilà, donc ça, ce sera le 13 février. Après, du même metteur en scène, Robert Cantarella, Hippolyte de Robert Garnier, au Moulin, les 21 et 22 février. 23 février, Left Lane Cruiser, à l'Abordage. Et la même soirée, il y a aussi un atelier libre du jeu pour ceux qui veulent s'essayer à la scène. Voilà, et puis je rappelle le 6 et le 7, le festival théâtre en scène, région en scène, Moulin, Louviers, Val-d'Oreux, Théâtre des Chalands et Cantle.
Moi, je souhaitais rajouter deux spectacles vivants radiophoniques programmés dans les semaines qui viennent. Les Nuits du Gonzo 9, programmées à Sotteville-lès-Rouen au Trianon Transatlantique à l'occasion des 20 ans du Trianon Transatlantique. Et là, c'est une aventure radiophonique et des concerts avec Bad Joke, Kelenia, Toukadine, Bob Soul et Ifaz. Voilà, c'est écrit tout petit sur mon écran au fond, j'ai beaucoup de mal à tout lire. Bien entendu, soirée gratuite, vous êtes bienvenue au Trianon Transatlantique, donc samedi. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ces soirées seront retransmises en direct sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR. Vendredi 10 février, la semaine prochaine, Principe Actif part en live et nous vous invitons tous à partir en live avec nous à l'Abordage Club de 17h à minuit et demi. Nos émissions classiques seront à l'Abordage Club en public. Vous y êtes bien entendu tous très vivement invités.
Donc c'est studio ouvert.
Studio ouvert à l'Abordage Club, bien entendu. Et bien entendu, vous pourrez réécouter également ces soirées sur Principe Actif et HDR.
Eh bien, encore un beau programme pour février.
Et cette émission se pousse jusqu'aux dernières limites. Nous allons vous quitter avec le traditionnel musique du monde. Nous avions fait pas mal de contrées déjà et nous voulions nous arrêter aujourd'hui du côté des Inuits. La question toute bête, quelle est leur musique traditionnelle, folklorique, de quoi jouent les Inuits?
Ils jouent
essentiellement de la voix. La question du froid, je pense, est sûrement liée à la culture musicale, parce que je ne sais pas s'il est évident de garder un instrument à cordes bien accordé dans le froid. Je ne suis pas certain. Est-il facile de jouer également? En tout cas,
Je pense du tambourin, oui, avec les peaux, les corps, ça.
Voilà, ça réchauffe.
Ça peut être un instrument encore jouable dans les conditions.
Voilà. En tout cas, nous vous proposons pour nous quitter, je sais pas, des vocales,
un jeu de voix. Un chant inuit. Voilà.
Un chant inuit. Alors, ces chants inuits sont beaucoup autour du jeu de voix. Et notamment, les femmes qui traditionnellement chantaient entre elles avaient une compétition autour du chant traditionnellement. Voilà, ça se lançait, ça suivait et ça donnait des morceaux relativement longs et en tout cas dans le jeu également. Nous vous souhaitons un excellent mois de sortie.
Et on se retrouve bien le vendredi 2 mars pour notre prochaine émission de Scène de vie, vie de scène.
Et on vous laisse avec les Inuits. Dunder, 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 dunder